première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Autour du végétal.
Various Artists est ici, un des 24 membres du collectif.
Mon nom, c'est Various Artists, hein, le nom d'artiste. Hein. En général, je ne donne pas mon propre nom, parce que depuis 2009, je n'utilise pas mon propre nom de naissance, mon nom de naissance, comme artiste.
Diana Duplakova, photographe.
Ce que je photographie, ça reflète un peu ce que je vis, ce besoin de retour vers la nature, de s'arrêter, de s'émerveiller, de se contempler dans la nature, parce que je trouve que c'est important dans notre vie de s'arrêter et s'émerveiller sur les choses qui sont peut-être ordinaires pour quelqu'un, des choses qu'on voit tous les jours, mais on ne s'arrête pas.
Cécile Beau.
À côté de Lourdes, à la lisière d'une forêt avec une rivière et des grottes. C'est plutôt sympa comme environnement.
Déborah Lévy.
Un voyageur. C'est plutôt une sorte de spectre ou d'aura qui plane autour du projet. Un voyageur qui a navigué, un traducteur de l'Odyssée, plutôt un helléniste donc, qui est assez intéressant parce qu'il a sillonné tous les bords de la Méditerranée pour refaire tous les voyages d'Ulysse.
Et Pep Vidal.
Autour du végétal, Alice Help, à Forest jusqu'au 15 décembre. Avec Laurent Courtens, Jogan Müller, Various Artists, Diana Duplakova, Déborah Lévy, Cécile Beau, Élise Duclos. À la galerie LMNO, Élise Duclos avec Christophe Weiss. Exposition jusqu'au 22 décembre.
Forest, c'est une allusion à Cure, c'était l'impulsion initiale du titre. À la perte en forêt aussi, l'idée de se perdre dans un milieu inconnu. C'est un projet qui a évolué en cours de conception, mais maintenant, dans l'état où il est, c'est surtout une exposition qui donne à voir une partie de l'état de notre relation au végétal dans un contexte qui est sous deux pôles. C'est d'une part la conscience d'une perte totale de la biodiversité, des forêts premières, etc. Donc un climat général d'anxiété, je dirais. Et d'autre part, des découvertes presque quotidiennes de la richesse du monde végétal et des écosystèmes. Donc ça, il y a beaucoup d'artistes ici, donc Cécile notamment, qui sont assez alertes là-dessus. Donc c'est une génération qui est fort habitée par ce climat-là. L'anxiété de la perte et en même temps l'étendue des connaissances qui se font jour sur la richesse végétale. L'intelligence, l'émotion végétale aussi, il y a des tas de dimensions qui décentrent la figure humaine pour le mettre plus en position d'équivalence avec d'autres espèces, d'autres vivants.
L'ISELP est située 31 boulevard de Waterloo, à 1000 Bruxelles, et la galerie LMNO située au 31 rue de la Concorde, à 1050 Bruxelles. Autour du végétal, par Thierry Jeunico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tento, me tento, me tento, me stelle.
Le monde invisible.
Je me spécialise en photographie et en épistémologie du paysage. Photographie du paysage, je pense qu'on sait de quoi il s'agit. Par contre, l'épistémologie, littéralement, c'est l'étude du discours des sciences. Ce à quoi je m'intéresse, c'est en particulier le grand dualisme nature-culture, sur lequel la plupart des sciences, en l'occurrence la géographie et beaucoup d'autres, s'appuient pour parler du paysage. J'ai essayé de comprendre d'où venait cette affaire-là. J'ai essayé de montrer que l'image perspective, quand on remonte au traité de perspective et à l'analyse de certains historiens, il se trouve que l'image perspective a en grande partie aidé, ou en tout cas instauré ce rapport-là dans le monde, nature, culture, donc quelque chose qui serait complètement défait de notre agentivité humaine. Et pour trouver un pendant ou trouver des résolutions plastiques, des résolutions photographiques, je suis allé en Islande, c'était mon terrain photographique. Et j'ai essayé de mettre l'image photographique face à ces contradictions. C'est-à-dire, photographier ce que l'on pourrait imaginer, ce que l'on voit d'ailleurs comme pure nature. Aucune trace d'agentivité humaine, a priori en tout cas. Il y a des grands champs de lave, très peu d'infrastructures, une assez faible population. Et puis progressivement, en fait, on se rend compte que même en Islande, en fait, cette idée de nature est absolument intenable. Donc quand je dis j'essaie de mettre l'image photographique face à ces contradictions, comme j'ai compris en creusant vraiment dans l'histoire, comme je disais, de la perspective, de quoi le geste photographique est plein dans le paysage, eh ben, je suis allé en Islande, conscient de quoi il est plein, et j'ai essayé de faire des photos où progressivement, il est impossible de maintenir une distinction extrêmement nette entre nature et culture. Ou entre humain et non-humain. On entre dans les images avec un sentiment de la nature, au sens historique du terme, comme on pouvait le dire au XIXe siècle. Et puis, c'est des images assez grandes, même très grandes. Donc, enfin, un beau tableau de nature, éventuellement. Et puis, on s'approche, et puis on commence à se rendre compte qu'il y a une dissémination d'artefacts dans à peu près tous les plans de l'image, et on dévaste, par le regard, on dévaste tous les plans de l'image, et on se dit, en sortant, même en Islande, alors, l'humain y a bien mis les pieds, en l'occurrence.
C'est un travail de Jogan Müller, qui est un photographe. Un travail qui est en cours depuis 2013, qui s'appelle le domaine du flamand. En fait, c'est sa région natale, les Landes, qui est ici proposée en carte.
Laurent Courtens.
Très brièvement, ça s'appelle le domaine du flamand, ce qui est une toponymie assez particulière, parce qu'au XVIIIe siècle, plusieurs gens du Nord, qui avaient une très grande connaissance d'ingénierie et de drainage, ont été mobilisés dans les Landes pour créer des polders.
Et revenons à l'Iselpe, après avoir quitté l'Islande. Et rappelez-moi votre nom.
Jogan Müller.
À l'Iselpe, vous montrez un paysage de votre enfance?
Oui, c'est un paysage natif. C'était d'ailleurs l'une des premières difficultés, c'est comment on se défait en quelque sorte de tout cet habitus. On peut tout photographier, il y a une infinité de possibilités, mais comment on décrète que un périmètre devient terrain photographique? Quelle est la forme d'accès que l'on va trouver? Quelle est la méthodologie? En l'occurrence, pour moi, ça a été le doctorat. Et le fait que, pas très loin de ce paysage natif, il y a cette forêt domaniale du flamand, et je suis certainement passé peut-être pas loin d'une centaine de fois devant ces panneaux qui annoncent forêt domaniale du flamand, forêt domaniale du flamand, en bordure de route. Et il a fallu le doctorat pour comprendre que le premier mot que nous ayons eu pour dire paysage, c'était landscap, c'était le flamand, attesté en 1462. Ça fait un premier tilt, un premier lien. Tout de suite, je me suis dit, forêt domaniale du flamand, je fais mon doctorat sur le paysage. Le mot flamand est a priori, la première occurrence, ce mot même paysage en Europe, dans l'histoire. Quelque chose d'intéressant à creuser. La présence des Flamands est attestée fin du XVIIe siècle dans ce qu'on appelle maintenant le Bas-Médoc. Ils ont poldérisé les terres là-bas. Et encore plus proche de l'histoire du paysage, ils auraient amené des vaches frisonnes et auraient montré aux locaux comment produire du lait, du beurre frais, fromage, viande, etc. Et il se trouve que selon Yves Luingbull, qui est un anthropologue français, le mot landscape, le mot paysage flamand, voulait dire pays gras, pays d'abondance, parce que sur les terres fraîchement exondées, on pouvait venir faire paître du bétail, donc produire une alimentation protéique qui faisait défaut. Donc sur la forêt domaniale du flamand, il y avait le mot paysage, landscape, en flamand, qui est la première occurrence, a priori, dans l'histoire en Europe, pour dire ça, paysage. Et il y avait aussi la présence des Flamands qui, exactement comme en Flandre et aux Pays-Bas à la fin du XVe siècle, ont exondé des terres et ont transformé ce pays en un pays gras, un pays d'abondance. Donc c'est ça qui m'a permis d'ouvrir la forêt domaniale du Flamand, qui est ce qu'on appelle une forêt de protection en termes techniques. Ça m'a permis d'ouvrir ça comme un terrain photographique. Et j'essayais de m'intéresser au phénomène de limite, que j'ai beaucoup étudié en Islande, limite entre nature et culture en particulier, où passe ce fameux slash entre nature et culture, est-ce que ça tient encore? Là, ce que je présente, c'est des recherches un peu complémentaires à ce que j'ai pu faire en Islande, dans mon corpus photographique en Islande, et comme ici, cette forêt n'est pas bornée sur le flanc ouest, où passe la limite? Et finalement, ce qui fait limite, c'est la forêt elle-même, donc on ne peut pas trouver un trait comme ça qui serait magnifiquement tracé avec des clôtures, etc. C'est toute la forêt qui fait limite. Et donc j'essaie d'approcher ça de manière visuelle, puisqu'on se situe visuellement à la limite d'une forêt, puisqu'on n'a pas de la pinède, plus exactement, puisqu'on n'a pas les pins verticaux comme on peut connaître sur les cartes postales, vous voyez, des chêmes. Non, on n'a pas ça, on a des buissons, on a des pins un peu tortueux. Et pourtant, on est officiellement dans la forêt domaniale du Flamand. J'ai pas quitté le périmètre.
Ça a été appelé la Petite Flandre, cette région. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un paysage culturel. Donc c'est typiquement un paysage qui a été construit au fil des siècles, une collaboration entre l'action humaine et les éléments. Or, l'Office national des forêts, on en a ici un document, indique que c'est une zone sous haute protection, dont le degré de naturalité doit être préservé. Et donc le travail photographique de Jogan Müller consiste à essayer de détecter la frontière supposée entre culture-nature et, à travers ce travail photographique aussi, saisir les limites entre le tapis forestier, la dune, voire les césures qui habitent le paysage.
Ulysse, c'est un nom qui compte pour notre installation, parce que c'est le personnage principal de notre installation. Un voyageur. C'est plutôt une sorte de spectre ou d'aura qui plane autour du projet. Un voyageur qui a navigué. Un traducteur de l'Odyssée. Plutôt un helléniste, donc, qui est assez intéressant parce qu'il a sillonné tous les bords de la Méditerranée pour refaire tous les voyages d'Ulysse. Victor Bérard. Un scientifique, mais qui a donc là fait preuve plutôt d'un projet de performance artistique. Alors nous, on était résidents, on est deux. On était résidents pendant 4 mois. On a eu enfin l'occasion, la chance, grâce à cette résidence, d'aboutir une recherche qui est assez ancienne sur le Molly. C'est une résidence de recherche, donc du temps pour réfléchir sans obligation de produire. C'est pour ça que finalement on a produit quelque chose, c'est parce qu'on n'était pas obligé. Une sorte de collection, une collection de 30 plantes. 30 plantes qui ont été reconnues comme étant le Molly sur 3 millénaires. Pour manifester cette collection de plantes, on a fabriqué une collection d'objets qui donnent chacun un angle, un point de vue sur cette histoire un peu étrange d'une plante qui n'existe sans doute pas, peut-être pas plus que Homère lui-même, mais qui, malgré sa non-existence, a fait couler beaucoup d'encre.
Alors ceci est une installation qui s'appelle Les dieux le nomment Molly. Et donc c'est le fruit d'une résidence de 3 mois de Déborah Lévy et Antoine Wang, qui sont architectes au départ et qui ont créé le laboratoire. Et c'est sous l'enseigne du laboratoire qu'ils ont exploré Molly. Alors Molly, c'est quoi? C'est une plante qui est mentionnée dans l'Odyssée. C'est quelques phrases où il est indiqué qu'elle permet de sauver Ulysse des charmes de Circé. Point. Et donc on ne sait pas en fait ce qu'est Molly au sens botanique. Et dès lors, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ça s'est précipité évidemment au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu plusieurs attributions de Molly. Et donc c'est un travail de compilation qui a été fait par Déborah et Antoine pour aller lister et inventorier toutes les occurrences de Molly. Et puis essayer de créer un dispositif qui fait exister Molly comme une plante hybride, multiple, différents êtres sous un même nom. Et donc qui ramasse aussi une somme de connaissances. Alors ça prend différentes formes, il y a différentes dispositions proposées.
L'Odyssée d'Homère, c'est il y a presque 3 millénaires, mais ces plantes, elles poussent encore.
Un tableau qui essaye de représenter Molly, ce sont toutes les mentions qui existent dans la littérature botanique qui essayent de décrire Molly. Donc c'est un tissu de contradiction en fait. Un paysage avec quelques occurrences qu'on nous lit.
Un livre donc, qui prend la forme d'un faux code de nomenclature botanique, donc qui est plutôt un travail sur l'histoire de la nomenclature botanique. Une image, mais qui est faite de texte, et qui est censée être la seule représentation possible de cette plante mythologique, et qui n'est autre que l'enchaînement de toutes les descriptions qu'en ont fait les scientifiques pendant ces 3 millénaires.
Une série d'holotypes, donc ce sont en fait les sources botaniques qui attestent de l'existence d'une espèce, qui attestent de sa découverte, et qui la décrivent. C'est le fichier source d'une plante en termes de botanique. Je ne sais pas si c'est la bonne formulation.
Et le dernier objet qui est un peu bizarre, qui est une sorte de détournement d'un dispositif scientifique un peu étrange, qui s'appelle les holotypes, qui est une sorte de feuille d'herbier qui sert de colle entre le nom de la plante elle-même, et de garantie que le nom et l'objet de la plante soient fermement liés à jamais. et qui, pour plein de raisons, est très paradoxal, parce qu'il contredit énormément de thèmes de l'histoire de la botanique à cette époque-là. Et son fonctionnement est aussi assez bizarre. Et donc, nous, on a détourné cet objet-là pour présenter toutes les pages des ouvrages dans lesquels on a identifié les moments où les scientifiques ont reconnu le Molly.
Et donc, il y a plusieurs holotypes qui apparaissent pour Molly, qui sont des supports parfois différents aussi.
Déborah Lévy. Je suis basée à Bruxelles, avec mon collaborateur Antoine Wang, qui est basé aussi à Bruxelles. Nous, à la base, on est architectes. Et on a créé, l'année passée, une structure qui nous permettait de faire autre chose que ce qu'on fait dans le cadre de notre pratique d'architecture, et qui s'appelle le laboratoire. Et Molly est le premier projet du laboratoire qu'on montre.
Il y a un code botanique qui est une fiction de code de nomenclature essayant de condenser, de décrire Molly, de la circonscrire comme une espèce.
Ce sont tous des projets qui fonctionnent un peu de la même manière que Molly, c'est-à-dire c'est des collections. On voit tous les nouveaux projets qu'on lance comme une nouvelle collection de quelque chose. Collection comme un ensemble d'objets délimités qui n'a peut-être pas été délimité de cette manière-là avant. C'est le cas par exemple des 30 plantes qu'on présente dans Molly. Et collection aussi comme manière de traiter ces objets, comme manière de les collecter, manière de les entretenir, soins apportés à les entretenir, à les gérer. Alors, c'est pas une structure d'architecture, c'est pas un bureau d'architecture, on construit pas. C'est un collectif d'architectes qui s'appelle Orthodox. Et on a plutôt travaillé dans les champs de la médiation. Donc, publication, exposition.
Ouais. Sur la passerelle, ce sont plusieurs dessins à l'acrylique de Maria Teresa Alves, une artiste brésilienne. Donc, c'est une série qui est en cours depuis 2013 et qui s'appelle Unrejected White Flora. En fait, ce sont des mauvaises herbes qui sont trempées dans l'acrylique et qui sont tapées sur le papier. C'est assez typique de ce qu'on trouve souvent en Amérique du Sud, d'ailleurs, ou centrale. On a un vocabulaire qui s'apparente à l'histoire de l'art, à l'expressionnisme abstrait, en fait, qui a un contenu politique ou philosophique, qui est ici de faire vivre la mauvaise herbe, donc qui est vraiment le rebut ultime du végétal, quoi. Lui donne de l'intensité de la présence.
Vous êtes-vous rendu, Christophe Hess, à Lissel ?
Alors, bien entendu, notamment puisque à la galerie, nous avons deux artistes qui participent à l'exposition, à la fois Lise, avec une ligne de dessin, qui sont des dessins pour la plupart antérieurs, je pense, à sa résidence new-yorkaise, et par ailleurs, on a aussi le travail de Pep Vidal, qui récupère toutes ces plantes qu'il a pendant près d'un an, enfin plus d'un an, pardon, mesurées dans leurs différents changements.
Felicia Atkinson and a Forest Petrifies, donc là la connexion avec l'existence végétale, avec le vivant, est plus métaphorique qu'immédiate. Donc c'est un travail au long cours qu'elle a entamé au Canada, donc il prend des formes variables, hein. Ici c'est vraiment une focale, parfois ce sont des installations beaucoup plus vastes. Elle a commencé ce travail au Canada en 2016, voilà, et lui a donné différentes occurrences, l'améliore, l'agence, l'augmente. Donc c'est une allusion, A Forest, le titre, à David Tudor. Sa démarche très ancrée dans l'héritage des années 60-70 et à l'émergence de l'écologie et surtout de l'écoféminisme. Et le travail de Felicia Atkinson est très ancré aussi dans la pratique musicale, donc parce qu'elle est artiste plasticienne, écrivaine et musicienne. Donc en gros, ce qu'on peut percevoir ici, c'est, enfin tel que moi je le perçois en tout cas, une sorte de métaphore de ce que peut être un écosystème, au sens où il y a différents états de matière, différentes latences, différentes temporalités aussi, des technologies plus récentes, des existences presque fossiles, différentes temporalités qui s'agencent pour former un organisme à l'image de ce que pourrait être un écosystème.
Diana Duplakova, photographe. Ce que je photographie, ça reflète un peu ce que je vis. Ce besoin de retour vers la nature, de s'arrêter, de s'émerveiller, de se contempler dans la nature, parce que je trouve que c'est important dans notre vie de s'arrêter et s'émerveiller sur les choses qui sont peut-être ordinaires pour quelqu'un, des choses qu'on voit tous les jours, mais on ne s'arrête pas.
Trois photographies de Diana Duplakova, hier beaucoup en forêt. Voilà.
Je suis d'origine Slovaquie, donc oui, là nous avons eu beaucoup de nature et c'est ce qui me manquait en fait à la fin. Et à Bruxelles, donc je suis venue pour faire des études de la photographie. Il ne suffit pas de se promener, mais il faut se promener et puis s'arrêter et observer, écouter un peu la nature. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit de beaucoup de choses qu'on ne voit pas en passant en vitesse. Mais comme par exemple, je m'assis, j'observe de l'eau, des reflets, des animaux, des oiseaux qui passent et tous ces changements de mouvement dans la nature. La lumière qui change justement aussi avec le soleil. En fait, c'est la lumière qui est importante dans la photographie. Pour moi, les images, c'est un peu comme une miroir. Pour celui qui regarde, il voit des choses qui lui parlent parce que il l'a vécu, donc de coup, ça ouvre. Enfin, c'est ça, l'image, c'est une miroir et il n'y a pas de règle comment le voir. Chacun voit à sa manière.
Ça nous ramène à la forêt comme lieu de projection onirique et de vision aussi. La forêt a toujours été un lieu de vision, en fait. Et donc le travail photographique de Diana Duplakova, quel que soit son motif, consiste généralement à transformer notre vision sur le... Enfin, comme font beaucoup de photographes, hein, mais donc... Donc à générer des incertitudes sur ce qu'on a sous les yeux. Sommes-nous devant une vue aérienne? Sommes-nous devant un fragment? En fait, c'est un fragment. Donc voilà, il y a des déplacements constants d'échelle, d'intensité, qui appellent à bouleverser notre vie.
Ce sont les institutions ou ce sont les artistes qui s'emparent des grandes thématiques politiques qui traversent notre époque?
Je pense que ce sont les êtres humains, donc il y a des êtres humains dans les institutions, donc Lisel se pose cette question de la place de la nature au sein de notre société, comme ici Lise ou Pep Vidal ou encore bien d'autres artistes se posent cette question, ou pour des figures plus anciennes, se la pose depuis quelques années, de très nombreuses années.
Pensez à qui?
Mais on peut vraiment glaner des noms d'un peu partout, les gestes qu'a pu produire quelqu'un comme Richard Lang, qui pose une trace dans le paysage, ou par exemple l'une des grandes figures du mouvement du Land Art aux États-Unis, qui est Smithson, qui avait un geste qu'on peut... Aujourd'hui, on associe un peu facilement le Land Art et un art qui serait écologique. Mais Smithson a parfois posé des gestes qui étaient très violents à l'encontre de la nature, déverser de la colle industrielle sur un vallon, c'est pas quelque chose qui est d'une grande délicatesse vis-à-vis de la nature. Ici, il l'interrogeait aussi, il interrogeait les rythmes notamment.
Ce sont deux bonsaïs,
Laurent Courtel,
qui ont été placés dans une solution saline, c'est du sel, hein. Les arbres sont dans une situation de dégradation, de corrosion. Et donc il y a une décomposition progressive, mais qui devient parfois assez fascinante. Et donc on est ramené là, par le biais de ce diptyque vidéo, à cette autre dimension de ce qui préside à l'exposition, c'est celle des périssements. C'est l'état de dégradation subi par les éléments végétaux. Donc il faut quand même... Il y a une pléthore de publications actuellement sur le végétal, et donc il y a quand même un élément absolument fondamental, c'est que c'est l'élément premier. Donc l'atmosphère elle-même est une création du végétal. C'est la vie même. C'est la vie même. Ce à quoi ramène d'ailleurs l'installation de Cécile Beau ici, qui s'appelle Cladonia.
Laurent Courten s'évoquait les mousses du lichen.
Donc ce sont des tapis de mousse et de lichen diverses.
Un paysage, quelque chose qui précède l'air, c'est ça?
Je pense qu'en fait, il fait référence à un livre d'Emmanuel Ecoccia qui s'appelle « La vie des plantes », où c'est vraiment bien développé l'idée qu'effectivement les végétaux, le monde végétal, respire et par cette respiration alimente l'air en oxygène et donc crée l'atmosphère dans laquelle on vit. Les premières formes de vie, après les bactéries... On imagine que ça a un petit peu migré.
Donc c'est la vie et la mort, hein. Le fondement même. Donc parce que dans le végétal, la couche première, c'est les mousses et les lichens, hein, qui ont des stratégies d'expansion qui sont assez fascinantes. Le lichen est un hybride avec un champignon, par exemple, c'est une hybridation. Et donc cette image-ci, placée sur le pont roulant aussi, évoque un espoir de renaissance, un désir de renaissance, une capacité aussi de renaissance du vivant, du végétal en particulier, dans un climat post-industriel qui est quand même largement menaçant aujourd'hui.
En sortant de l'eau, il y a des bactéries, les algues. Ça serait les mousses qui auraient amené ensuite un développement des champignons, qui ensuite auraient permis de créer une espèce d'agriculture de l'air.
Et vous, vous avez deux installations ?
La pierre, et donc qui métisse le ronronnement d'une panthère avec le bruit d'un tremblement de terre, de sorte qu'on a une présence très ambiguë, qui ramène à un temps premier d'une part, et d'autre part qui gronde parfois de menaces et parfois une présence plus rassurante, du fait des juxtapositions sonores.
L'une avec du son et l'autre du silence. Pouvez-vous les décrire ?
Donc il y a une pièce qui s'appelle Aoriste, qui consiste en une roche volcanique qui abrite un petit dispositif sonore. Quand on s'en approche, on entend une espèce de grondement. Et l'autre pièce, c'est une étendue de mousse dans laquelle sont posées, il y a quelques souches aussi. La mousse, en fait, c'est le premier élément végétal qui va coloniser un espace.
Cécile ?
Beau.
Beau.
Quand tout a été arraché et détruit, la mousse, c'est la première chose qui vient coloniser. Par ses filaments, en fait, elle va stopper les graines qui sont portées par le vent, et donc elle sert de substrat à tout un tas d'autres possibles mondes végétaux.
Aoriste, de Cécile Beau. Donc c'est une roche volcanique ouverte, ça amène aussi, un peu comme Felicia Atkinson, à croiser des temporalités différentes, puisqu'on a un dispositif qui est très premier, donc c'est une roche, je ne sais pas combien d'années on peut lui donner, mais certainement des centaines de milliers, qui a été prélevée. Donc il y a aussi l'idée, chez Cécile Beau, comme chez d'autres artistes, d'être le terrain, ça, c'est le vivant, quoi. C'est des prélèvements pour cette installation-là. Il a fallu aller en forêt, prélever des mousses. Enfin, voilà, on est dans la matière même de... Pas l'échelle de l'atelier, c'est l'échelle du vivant. Voilà, quelque chose comme ça.
Elle est alimentée par des néons qui sont des néons de croissance, qui vont nourrir donc en lumière cette surface. Et donc finalement, elle est dans une position où si on ne l'arrose pas en permanence et si on éteint ces néons, elle meurt aussi. Donc quelque part, aujourd'hui, si on ne fait rien, on est en train de foncer dans le mur et de tout détruire. Donc il y a aussi cette idée qu'on peut être les porteurs de ce qui était là naturellement, mais qu'on est en train de détruire, et qu'en même temps, on a encore la possibilité de le maintenir en vie et de relancer le cycle.
Donc dans la salle ici en bas, plusieurs dessins. Donc l'idée, c'était de rassembler quand même des approches graphiques différentes.
Moi, je m'appelle Luce Jacobs et je fais partie d'une organisation qui s'appelle Nadine. Et on a initié un projet qui s'appelle Wandering Arts Biennial. L'expo ici est aussi une activité de notre biennale qui se fait cette année. Encore une biennale, ouais. En fait, on a initié ce projet en 2014 parce que dans le temps, on était un laboratoire artistique. On travaillait avec... 5-6 artistes qui travaillaient en route, en voyage, mobile, qui ne travaillaient plus dans le studio classique et qui voulaient se rencontrer et former une sorte de plateforme. Donc c'est vraiment un projet qui a commencé avec les artistes. C'est eux qui ont eu l'idée de créer le Wandering Arts Biennial. Je me rappelle que dans le temps, on appelait ça okay, Wandering Arts. Ok, bon nom, parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui peuvent se collectionner ou qui peuvent se manifester dans ce projet. Et après, on a dit, on veut quand même aussi avoir une connexion avec le public. Ok, ça veut dire qu'on va, tous les deux ans, on va sortir avec ces pratiques qui sont très, parfois bizarres, parfois en route dans l'espace public. On veut communiquer ça à un public, alors que eux, les gens peuvent avoir accès ou avoir une vue sur les processus de création non classiques, disons. Et biennale, pour nous, veut juste dire tous les deux ans, on sort.
Mon nom, c'est Various Artists, hein, le nom d'artiste. Hein. En général, je ne donne pas mon propre nom. Parce que depuis 2009, je n'utilise pas mon propre nom de naissance, mon nom de naissance. comme artiste.
Par exemple, avec Nadine, on a fait dans le temps un projet en vélo avec 8 artistes, une ligne dans le paysage. C'était un pli d'une carte qu'on avait suivi avec 8 artistes. Et ça, c'est un des projets qu'on explore dans la biennale. Donc, et la biennale fait que les œuvres qui sortent de ce voyage d'inspiration, disons, peuvent être présentées.
Un système, parce que je vois les membres du collectif, les 24 artistes, plutôt comme des formules où je peux combiner.
Donc c'est maintenant la 3e édition qu'on fait, et on a dit, ok, on veut peut-être ouvrir cette biennale qui est vraiment petite niche pour les artistes, à Bruxelles aussi.
Le rapport entre humain et nature, le rapport un peu destructif.
Wandering art. L'idée de wandering, c'est l'idée du dérive, c'est l'idée de mobilité, mais sans savoir où aller. L'errance, je pense aussi, c'est un mot. Ouais.
On voulait amener des artistes en vélo pour faire des projets ensemble. L'idée, c'était de prendre la carte géographique de l'Europe, de suivre les plis. L'année prochaine, on va refaire le 4e. On fait le trajet du pli en vélo. On reste dans 50 km parce que... l'Europe. Et donc, c'était un voyage entre le nord d'Espagne et le sud de Portugal, le pli numéro 2. Et dans le sud de Portugal, c'était la frontière entre l'Espagne et Portugal. On voyait des lacs artificiels où il y avait... des bouts des arbres comme ça alignés comme ici comme les chaises alignés l'un après l'autre et c'était juste en passant et ça restait dans la tête. Je regarde sur Google Earth, c'est la même chose, on voit les... Et donc après on est revenu dans cet environnement là, on voyait que c'était des oliviers, mais des oliviers de 500 ans qui étaient submergés en de l'eau, hein, parce que avec l'aide de l'Europe, on est en train de faire plein de barrages, mais des barrages pour faire l'électricité, mais surtout pour créer des nouveaux champs pour la cultivation des citrus, des orangers, des citrons. En fait, pour concurrer avec les Espagnols ou les Portugais qui font dans les vallées déjà, dans les endroits qui font, où le climat est bien... propre pour faire des citrons et des oranges, hein, où il y a la culture ancienne. Maintenant, on fait des trucs industriels sur des trucs ou sur des hauteurs où il n'y avait pas de façon pour cultiver ça. Donc, c'est un peu un faux truc. Donc, tout ça, ça fait part du agua con gas comme agua con gas, l'eau pétillante, mais on peut aussi faire avec du gaz, tu vois. Action humaine avec l'eau, tu vois, de contamination. On a déjà fait l'Irlande, on a déjà fait la Pologne vers Croatie, c'était aussi intéressant. Plus vers l'Est, ça devient plus douteux ou dangereux, on va voir. Inconnu en Russie, tu vois, je ne sais pas. En général, ça fait une dizaine de personnes.
Donc ici, quelques gravures de Daniel Aron. Donc là, j'ai voulu les inviter parce que, de manière tout à fait intuitive, donc c'est pas quelqu'un qui a un propos politique, narratif ou autre, mais de manière intuitive, elle formule une image qui propose un nouvel agencement entre figure et présence végétale. Donc dans la salle ici en bas, plusieurs dessins, donc l'idée c'était de rassembler quand même des approches graphiques différentes. Par exemple, Lise Duclos.
Qu'est-ce que je fais avec les plantes? Je les regarde. Principalement, je les regarde grandir, se transformer, changer, j'imagine aussi, parce qu'il y a une grosse partie de choses que je ne peux pas voir, que je ne sais pas. Et comme nous sommes particulièrement différents, les plantes et moi, donc j'imagine. Par exemple, tout ce qu'il y a sous terre. J'imagine les racines. Évidemment, je me renseigne. Évidemment, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de choses scientifiques, mais bon, après, j'essaye de retranscrire une partie de ce que j'ai vu et une partie de, évidemment, de ce que j'ai lu et une partie de mon imaginaire.
Vous dites les plantes et vous sont des choses différentes.
Oui. Je pense qu'on est particulièrement différents. C'est de la pure altérité.
Pourtant, on dit avoir la main verte.
on vient de la même chose, donc on est d'une certaine manière très très proche, puisqu'on fait partie de la même famille. On est tous des eucaryotes, mais pour autant, il y a les plantes et les animaux, je suis un animal, on est quand même très différents, elles sont fixes, moi je marche, je cours, et je peux plus ou moins m'enfuir, encore que... Elles sont fixées au sol et donc elles fonctionnent totalement différemment. Enfin, elles n'ont pas de système nerveux, elles n'ont pas de cerveau.
Pourtant, elles communiquent.
Pourtant, elles communiquent, oui. Même si on ne sait pas exactement comment. Enfin, après, les scientifiques ne sont pas forcément d'accord les uns entre eux sur exactement sur ce qu'elles disent ou comment elles communiquent, si elles parlent, par exemple. Voilà.
Elles émettent des odeurs.
Elles émettent des odeurs, elles sont ultra sensibles. Sont des êtres ultra sensibles qui sentent toutes les ondes. Donc les ondes sismiques, les vibrations, toutes les vibrations, le son, puisque le son est une onde qui voit la lumière, voit le soleil. Nous, on ne le voit pas. On n'en est qu'aveuglé. Et oui, et qui émettent aussi des hormones. Et. Qui font du bruit, mais peut-être qu'elles font simplement que gargouiller. Ils ne savent pas si elles parlent quand elles font du bruit ou si elles ne font que gargouiller.
À la galerie LMNO, Lise Duclos avec Christophe Hesse. Exposition jusqu'au 22 décembre.
Quant à Lise Duclos,
galerie LMNO.
Exactement. LMNO pour Olivier Legrain, Natacha Motard, qui sont les propriétaires de la galerie, et donc ça forme cette suite alphabétique qui est au cœur de l'alphabet, et ça nous semblait intéressant d'être à cet endroit-là, au milieu, présent.
Et quand vous dites, Christophe Weiss, nous, vous avez partie prenante avec la galerie où nous parlons ?
Alors, il se trouve que Natacha est ma meilleure amie, qu'on a fait nos études ensemble en histoire de l'art, et lorsqu'elle a eu l'envie de se lancer dans cette aventure en compagnie d'Olivier, l'idée était de renouer un lien avec quelqu'un qui était encore actif dans le monde de l'art, et donc elle s'est tournée vers moi.
Est-ce que les plantes sont conscientes ? Ça, c'est un autre problème.
Sachez que quand un arbre fruitier va mourir...
Ah oui, il va fleurir et il va faire énormément de fruits pour pouvoir... Oui, elles ont une certaine conscience, mais enfin, ça dépend évidemment qu'est-ce qu'on met dans le mot conscience. Voilà, quel individu, c'est pareil, est-ce qu'une plante est un individu ? Enfin là, c'est le grand débat aussi, puisque être un individu, c'est quelque chose qui est indivisible, alors qu'une plante est totalement divisible, puisqu'elle se bouture.
Lise Duclos, qui expose aujourd'hui.
Alors, c'est la deuxième fois que nous travaillons avec Lise, qui est une artiste de la galerie. Et en fait, la première fois qu'on a montré son travail, c'était à Art on Paper l'an dernier, avec un solo show autour notamment de son projet sur les taupinières. Alors qu'ici, on présente un tout, tout nouveau projet qui est le fruit d'une résidence d'artiste qu'elle a menée pendant 6 mois à New York. Elle a remporté le prix de la Fondation Salomon. Ce prix est assorti d'une résidence. Donc pendant 6 mois, elle était là-bas, à New York, et elle a commencé à observer cette nature hivernale, en plus, puisqu'elle est arrivée le 1er janvier, cette nature qui est comme refermée sur elle-même, à cause des températures, notamment, et elle va observer notamment tout ce qui est mauvaises herbes, ce qu'on appelle communément des mauvaises herbes, et elle va les précisément dépeindre, en quelque sorte, les dessiner, puisque ce sont des dessins au feutre. Elle va à la fois nous montrer leur beauté, leur fragilité, nous montrer ce qui est généralement oublié, dont notamment les systèmes racinaires. Donc elle montre à la fois ce qui est visible et ce qui est invisible, ce qui est très fréquent dans son travail.
Voilà, donc oui, bien évidemment qu'elles ont des stratégies de fonctionnement, qu'elles développent des stratégies, qu'elles captent des informations et que selon ces informations, elles réagissent et elles se transforment pour pouvoir s'adapter aux informations qu'elles ont eues de l'extérieur. Donc oui, oui, elles savent où elles sont. Elles ne voient pas la même chose que nous. Elles ne voient, déjà le mot voir est absolument d'une certaine manière débile. On n'a pas les mots. On n'a pas les mots pour, d'une certaine manière, de décrire les sens de ces êtres qui sont si différents de nous. Voilà. Mais elles ressentent dans toutes leurs cellules de leur corps. C'est clair. Et donc, par rapport à ce qu'elles sentent, elles vont réagir. Oui, oui.
Elle évoque à mon micro les plantes de Bruxelles. De quoi s'agit-il ?
Alors, les plantes de Bruxelles, c'est un projet qu'elle a mené notamment à la centrale électrique, où elle, généralement, lorsqu'elle parle des plantes, elle parle tout à la fois des plantes, mais aussi de l'ensemble de notre communauté, en quelque sorte. Cette communauté qui relie les humains, les animaux, les plantes et tout le reste de notre système. En l'occurrence, les plantes de Bruxelles, ce sont ces plantes qui constituent nos jardins privés, nos environnements urbains, éventuellement nos plantes d'appartement, et qui, pour la plupart d'entre elles, viennent d'ailleurs.
Et vous, vous les contemplez ?
Oui, je les contemple, je les récolte, je les sème, je fais des boutures chez moi, que je donne de temps en temps, comme des œuvres d'art. Voilà. Et je me renseigne aussi, on va dire. J'essaye de les connaître, enfin, d'apprendre leur nom, de les regarder autrement, peut-être. Peut-être que c'est ça, j'essaye de les regarder autrement. Mais c'est des grandes compagnes.
Par exemple, ici, dans le cadre de cette expo, elle a proposé une performance. Dans la deuxième partie de la performance, il y avait aussi un acte de générosité, puisqu'elle avait préparé une série de slogans qui avaient mûri pendant la résidence. Elle les lisait, ensuite elle les chiffonnait, donc elle les fragilisait en quelque sorte, et elle les lançait dans le public qui pouvait les recevoir.
Mais parlez-moi de ces cadeaux que vous faites en termes de bouture, comme œuvre d'art.
Les plantes de Bruxelles. Ce travail s'appelle Les plantes de Bruxelles. Et j'ai une grande pratique de bouture depuis énormément de temps. Et une espèce, on va dire, de collection de plantes. Donc ces bouts de plantes, je peux les voler dans des magasins, je peux les voler dans des jardins botaniques, mais aussi les récolter chez des amis, les prélever chez des amis. Donc ça peut être autant, on va dire, des souvenirs sentimentaux qui n'appartiennent d'une certaine manière qu'à moi, et ou aussi simplement parce que c'est des plantes que je n'ai pas ou que je trouve chouettes, ou enfin voilà, ça peut être aussi lors de mes voyages. Quand je me promène, et je les appelle les plantes de Bruxelles parce que, évidemment, ces petits bouts de plantes arrivent chez moi et donc prennent, entre guillemets, vie, donc font racine chez moi. Donc, à ce moment-là, habitent de Bruxelles. Les plantes d'intérieur, ce sont toujours des plantes d'intérieur ou de balcon. C'est-à-dire des choses qu'on doit quand même rentrer en hiver. Ce ne sont pas des plantes de jardin. Les plantes de jardin, on les plante en pleine terre et elles n'ont pas besoin d'être un petit peu en prison, comme les plantes en pot.
Le fait de glaner aussi, les projets de lys demandent de nombreuses années. Par exemple, on a ici une petite ligne de photographie qui sont en fait des graines qui sont agrandies à peu près 10 fois par rapport à leur taille réelle, ce qui nous permet de constater le caractère presque sculptural de ces objets. Et en fait, ce projet a duré près de deux ans et demi à 3 ans de récolte et d'observation fine des graines. Alors précisément, ici on en a 6, et ces 6 graines qui sont ici présentes sont des graines de plantes qu'elle a pu retrouver aux États-Unis, mais qu'elle avait les graines trouvées en Belgique.
Ces petites boutures, évidemment, donc toutes les plantes d'intérieur sont des plantes exotiques, ne sont pas du tout des plantes de chez nous, donc sont des plantes étrangères, qui en général n'ont que des noms latins, ou leur nom, on va dire, francisé, est un nom qui vient du latin. Ce n'est pas du tout un petit nom, comme nos vieilles plantes européennes, on va dire, ou eurasiennes, qui souvent, au Moyen-Âge, on leur donnait un nom qui était lié évidemment à comment on les utilisait, leur qualité ou leurs défauts.
Donc on a de nouveau ce jeu d'aller-venu. Lise Duclos est une artiste française, mais implantée comme une plante. En Belgique, elle y a reconstruit une sorte de système racinaire depuis ses études à l'Ergue, où elle avait au sortir de l'Ergue, elle a plutôt une pratique photographique. Le dessin existait un peu, mais comme une dimension un peu cachée. Et petit à petit, le dessin a pris de plus en plus d'ampleur. Et c'est ce qu'on constate ici. Il y a un mélange où domine tout de même le dessin, mais où existe la photographie et où existent certaines pièces qui sont plus textuelles. Parce que le langage a une grande importance dans le travail de Lise Duclos.
Et ces plantes, en fin de compte, elles, c'est comme si elles n'avaient pas de nom. Elles ont sûrement un nom là d'où elles viennent, car souvent, en plus, là d'où elles viennent, c'est souvent des mauvaises herbes, parce qu'elles ont une capacité de résistance très importante. Et c'est, entre guillemets, pour ça qu'elles supportent le pot, on va dire. Donc je les nomme. Je les nomme selon ma relation à elles, si je les connais bien ou pas. Elles peuvent changer de nom. Donc elle change parfois de nom, et donc je fais des espèces de certificats, et elle, à des moments donnés, pendant des expositions, donc je vais les, on va dire, déplacer de chez moi, les transporter, les mettre en exposition, et les gens pourront venir les adopter au bureau des plantes. Donc à ce moment-là, ils doivent passer à mon bureau, ils doivent s'inscrire, comme quoi, d'une certaine manière, il y a un échange de responsabilités qui se fait. Donc, ils s'inscrivent leur nom dans un registre et ils reçoivent un certificat tamponné, daté, signé, où il y a le nom de la plante que j'ai donnée, son nom scientifique et quelques explications sur elle et comment plus ou moins s'en occuper. Voilà. C'est une manière, d'une certaine manière, de les rendre, entre guillemets, plus humaines, ce qui est peut-être un peu débile, parce qu'en soi, elles n'ont pas à devenir plus humaines. C'est peut-être nous qui avons à devenir plus plantes. Mais c'est pour, d'une certaine manière, les faire exister en tant qu'être vivant.
Philadelphie 1784. Il s'agit d'archéologie, d'histoire, de date de fondation de villes états-uniennes.
Voilà, il s'agit de centaines de choses. En fait, le savoir de Lise est très vaste. Il prend comme appui la question des plantes, mais cette question ricoche, en quelque sorte, sur de nombreux autres types de questionnements. Comment une plante qui vient, par exemple, de Chine, peut faire son apparition dans un territoire extérieur? À partir de quel moment cette plante existe? En l'occurrence, ici, elle s'est intéressée essentiellement à une plante qui s'appelle The Tree of Heaven. Et le Tree of Heaven, c'est une plante qui vient de Chine, qui est arrivée par des différents systèmes, et notamment, c'est souvent le cas des plantes exotiques, elles sont arrivées pour embellir les jardins en Europe ou aux États-Unis. Et petit à petit, les graines de ces plantes vont se propager, devenir des sortes de plantes un peu sauvages. Et The Tree of Heaven, qui est donc chinoise, ressemble très fort à une plante américaine. La Tree of Heaven est un peu chassée. La difficulté, c'est de la reconnaître par rapport à l'américaine. Donc déjà, rien qu'en entendant ça, on peut se rendre compte que pointe cette question éventuellement du racisme, de chasser des gens. Donc on est vraiment dans l'actualité de l'Amérique contemporaine, hélas. Et tout ça au départ de l'observation d'une simple petite plante, plante que l'on retrouve par ailleurs, c'est un heureux hasard, dans notre rue, puisque juste à côté de chez nous, il y a un petit Tree of Heaven qui est en train de naître à l'intérieur d'un petit carré de terre, et qui n'a pas été planté, hein, qui est arrivé de manière spontanée.
Et puis, je pense que les plantes sont réellement des œuvres d'art, comme tout être vivant est une œuvre d'art, et les plantes particulièrement, puisqu'elles ont la capacité de créer des formes continuellement. Et donc, comme elles sont tout le temps en train de se transformer, de créer des formes, l'art est quand même peut-être l'endroit où on fait des formes, et on crée aussi des formes, où on imagine des formes, ce que la plante fait tout le temps. Voilà, ce qui est particulièrement magique. Lise Duclos.
autour du végétal, à l'Isselp, à Forest, jusqu'au 15 décembre. Avec Laurent Courtens, Jogan Müller, Various Artists, Diana Duplakova, Déborah Lévy, Cécile Beau, Élise Duclos. À la galerie LMNO, Élise Duclos avec Christophe Hess. Exposition jusqu'au 22 décembre. L'Isselp est située 31 boulevard de Waterloo, à 1000 Bruxelles, et la galerie LMNO située au 31 rue de la Concorde, à 1050 Bruxelles. Autour du végétal, par Thierry Jeunico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.